affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, chers auditeurs, bonjour et merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour notre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose de revenir à une époque à la fois proche et lointaine, celle de l'entre-deux-guerres. Alors que se joue une des aventures les plus marquantes de notre histoire nationale et au-delà, une des plus grandes épopées du XXe siècle. J'ai nommé celle de l'aéropostale et très exactement celle des premières lignes aériennes commerciales et transcontinentales. Pour nous guider, nous accompagner dans ce voyage dans le temps, qui nous laissera aussi les yeux rivés vers le ciel, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Laurent Albaret. Laurent Albaret, bonjour.
Bonjour.
Médiéviste de formation, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Inquisition, notamment dans le Midi de la France. Mais une autre page de l'histoire, plus proche de nous dans le temps, a retenu aussi depuis des années votre attention et orienté vos recherches. Il s'agit précisément de l'aviation commerciale et en particulier de l'aéropostale. En 2013, vous avez publié aux éditions Privat un ouvrage de référence sur le capitaine d'industrie Pierre-Georges Latécoère, couronné par le Grand Prix de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse en 2013 et l'année suivante par le prix Louis Castex de l'Académie française dont vous êtes à ce jour le dernier lauréat. Je rappelle à nos auditeurs que le prix Louis Castex récompense chaque année l'auteur d'une œuvre littéraire mettant entre autres en lumière la grande aventure de l'aviation. Pierre-Georges Latécoère est en effet une figure majeure de l'aviation commerciale. Il fut l'un des premiers à envisager l'acheminement du courrier d'un continent à l'autre par voie aérienne, rêve fou auquel personne ne voulait croire au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais travailleur acharné, ambitieux et surtout attaché à la défense des intérêts nationaux, Pierre-Georges Latécoère sacrifia toute son énergie à sa compagnie, qui deviendra par la suite l'aéropostale avant d'être attaché à la future Air France. Donc Laurent Albaret, au fil des pages, à travers les extraits choisis par vos soins de la correspondance de Latécoère, le lecteur voit peu à peu se dessiner le tracé de la ligne mythique vers le Maroc, le Sénégal, puis l'Amérique du Sud. Il voit évoluer la technologie, mesure toute la force de caractère, la ténacité de l'industriel visionnaire, confronté sans cesse, il faut bien le dire, à de multiples difficultés, qu'elles soient politiques, commerciales, logistiques et tout simplement humaines. Laurent Albaret, cette correspondance débute en 1918, au lendemain de la guerre, et s'achève en 1928, date à laquelle Latécoère choisit de se retirer de la grande aventure qu'il avait lui-même initiée. Avant d'arriver à cet ultime épisode, j'aimerais revenir avec vous en arrière, avant 1918 et même avant la Première Guerre mondiale, au moment où se joue peut-être déjà le destin de Pierre-Georges. D'où vient-il? De quelle région? De quel milieu social? Et quelle éducation a-t-il reçu?
Alors, Pierre-Georges Latécoère est né en 1883, le 25 août 1883, à Bagnères-de-Bigorre, donc dans le Pays Basque. Il est d'une famille, on va dire, de moyenne bourgeoisie. Son père a quand même une belle entreprise de menuiserie au départ, qu'il a créée dans les années 1860 et puis qui s'est développée en mécanique générale. Et c'est un élève brillant, il a un frère aussi, il a un frère qui s'appelle André et une petite sœur, Berthe. Mais lui est un élève brillant et on va l'envoyer à Paris faire ses études au lycée Louis-le-Grand. Il passe son bac, qu'il obtient avec succès, il va faire un peu de droit et il va surtout rentrer à Centrale, où il va faire son diplôme d'ingénieur dans cet établissement. On est dans les années 1903 lorsqu'il rentre à 1903-1904, il va rentrer à Centrale. Son père décède en 1905. Et en fait, c'est sa mère, Isabelle, qui va s'occuper de l'entreprise familiale. En 1906, il a son diplôme d'ingénieur et il va lui s'en occuper pleinement. Et donc, il va reprendre en 1906 les affaires de la famille. Il faut savoir que l'entreprise familiale à l'époque a une gestion patronale, on va dire très régionale et très familiale avec les ouvriers. Et Latécoère, Pierre-Georges, lorsqu'il reprend l'entreprise, va essayer d'en donner un peu plus d'importance, plus d'envergure au niveau commercial. Et il va essayer donc, avant la guerre, puisqu'on est vraiment avant le premier conflit mondial, d'ouvrir les marchés. Il parle allemand, donc il va travailler avec des entreprises ferroviaires vers l'Allemagne, juste avant la guerre. Et puis, très vite, il va avoir des contrats avec l'armée.
Alors que devient l'entreprise familiale au moment de la guerre justement? Et Pierre-Georges Latécoër, âgé de 31 ans je crois en 1914, est-il lui-même appelé sous les drapeaux?
Alors Pierre-Georges est appelé sous les drapeaux. Il est appelé sous les drapeaux, il est artilleur. Il va faire 4 mois parce que très vite on se rend compte qu'il est myope. Pour un artilleur, c'est pas très pratique. Donc il va être démobilisé, mais il est surtout démobilisé parce que c'est un chef d'entreprise et qu'il y a une espèce d'effort national à faire dans cette guerre d'union sacrée, comme on dit à l'époque, et qu'il doit y participer avec son entreprise et donc participer à l'effort de guerre.
Et comment va-t-il justement participer à cet effort de guerre?
Alors son entreprise va évoluer. Elle va évoluer dans un premier temps puisqu'il fabrique des cuisines roulantes pour l'armée. Et puis en 1916, on lui propose, bon, il fabrique aussi des obus, mais on lui propose surtout en 1916 de fabriquer des avions puisque l'aviation commence à se développer en tant qu'arme au sein de l'armée française et même de toutes les armées qui sont engagées dans ce conflit. Et on fait appel à lui justement pour fabriquer des avions.
Et de qui va-t-il s'entourer pour relever ce défi incroyable en fait puisque... Quelques mois auparavant, il n'imaginait pas forcément construire des avions.
Non, il a pas, dans sa correspondance, il le laisse pas paraître. Hein. J'ai publié la correspondance, on va dire, professionnelle de l'homme, pas la correspondance intime, que j'ai pu consulter aussi, mais je ne l'ai pas publiée. Et c'est vrai que les courriers qu'il écrit à sa famille, notamment à sa mère, ne montrent pas cette envie vers l'aviation, je dirais, avant le premier conflit mondial. Quand on lui dit de fabriquer des avions, bah, il faut qu'il ait une équipe d'ingénieurs autour de lui. Donc on va retrouver plusieurs personnages, mais le plus intéressant, c'est celui de Marcel Moine, qui va l'accompagner jusqu'à sa mort et même au-delà. Marcel Moine est un ingénieur qui est sorti des arts et métiers, qui est quelqu'un de brillant et qui rejoint Latécoër en 1917. Et Marcel Moine va mettre véritablement en place au sein de l'entreprise Latécoër, qui s'appelle encore la maison G Latécoër, Gabriel Latécoër, le nom du père, met en place donc une équipe d'ingénieurs qui va travailler dans un premier temps à la fabrication d'avions et puis, on le verra plus tard, à l'invention de nouveaux appareils, puisque Latécoër va créer une marque d'avions. Donc Marcel Moine s'entoure de personnages, de Pierre Larcher notamment, d'Émile Barrière qui sera ensuite pilote d'essai, de Gaston Roland, on va chercher Émile Devoitine. Alors ce sont des ingénieurs qui ont travaillé pour l'État français, certains ont travaillé en Russie, hein, Moine a travaillé avec les Russes, Devoitine aussi. Et donc tous ces gens-là vont entourer Pierre-Georges pour construire des avions pour l'armée française.
Alors un premier avion va survoler le ciel de Toulouse le 27 avril 1918 et on peut lire dans la presse locale le cri de Toulouse. Mardi dernier, les Toulousains ont eu dans l'après-midi l'agréable surprise de voir un magnifique biplan survoler notre ville et à une grande hauteur exécuter d'audacieuses et d'élégantes évolutions. Le bel avion sortait tout entier des ateliers Latécoër, installé comme on sait à Montaudran et où travaillent déjà plus de 1500 ouvriers. Alors quel type d'avion et quel prototype Latécoër va-t-il mettre à l'étude et proposer à l'armée française?
Alors en 1917, lorsqu'il commence à travailler avec l'armée française, en fait il n'a pas encore d'avion lui créé au nom de Latécoër. Il va reprendre sous licence la fabrication du Samson, qui est un avion de biplace de reconnaissance, qui servait surtout de reconnaissance pour l'artillerie. Et puis, il va reprendre le fameux Breguet 14, qui est un des meilleurs avions de l'époque pour l'armée française, qui a été lui aussi développé en 1916, qui est un biplace, un bombardier, qui sert à la fois de bombardier et de reconnaissance. Et lui, il va développer surtout l'aspect reconnaissance de cet avion. Donc, il les fabrique pour l'armée française. Et par des contrats qu'il signe avec le ministère de l'Aéronautique et le ministère de la Guerre, il va livrer des appareils. Ce qui surprend tout le monde, c'est que très vite, il va livrer ses appareils. Il a vraiment mis en place une machine de guerre industrielle pour livrer ses appareils. Et donc, très vite, dès le début de l'année 1918, les premiers essais ont lieu. Et en avril, les premiers appareils sont livrés.
Mais le conflit s'arrête plus tôt peut-être que ne l'avait imaginé Pierre-Georges Latécoër. Et Laurent Albarès, c'est précisément à partir de novembre 1918 que débute la correspondance de Pierre-Georges Latécoër, en tout cas celle que vous avez sélectionnée dans votre ouvrage. L'on y apprend que dès le 11 novembre, jour de l'armistice, le grand industriel a déposé les statuts d'une société d'exploitation, intitulée la CEMA, c'est-à-dire la compagnie Espagne-Maroc-Algérie. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il rebondit immédiatement. La guerre s'arrête, mais pas question d'arrêter de construire des avions.
Non, c'est il est un peu comme son père. C'est ce que je dis, c'est un patron de référence, un capitaine d'industrie pour l'époque. Et donc, très vite, on sait dans l'année 1918 que la guerre sera gagnée à plus ou moins court terme. Et donc, dès mars 1918, la TECOER commence à réfléchir à utiliser ses avions, à les transformer pour avoir une aviation civile. Donc, lorsqu'il dépose symboliquement ses statuts au moment de l'armistice, il y a déjà une réflexion de sa part qui a été engagée. Il y a des ingénieurs, Marcel Moine et son équipe. Il manque juste une cheville ouvrière supplémentaire, ce sont les pilotes. Il récupérera les pilotes militaires qui n'ont plus à se battre, mais qui cherchent du travail. Donc, c'est vrai que pour lui, déjà, les choses sont enclenchées bien avant la signature de l'armistice. Il a rencontré le ministre de l'Aéronautique en septembre 1918 pour mettre en place avec lui une entente pour récupérer des avions militaires, du matériel, surtout des moteurs, parce qu'on a besoin de moteurs pour ces avions, parce que les moteurs s'usent et parce que ce sont des avions qui sont des avions de guerre, donc ce ne sont pas des avions qui sont destinés à l'aviation civile. Donc déjà, il a commencé à enclencher, je dirais, son entreprise et à construire les bases dès le milieu de l'année 1918.
Comment cette idée va-t-elle être accueillie par les contemporains, notamment les politiques, français et étrangers ? Va-t-il être soutenu par tous ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est surprenant. C'est surprenant parce qu'il faut s'imaginer la sortie de la guerre. Il n'y a pas d'aviation civile, il n'y a pas de ligne aérienne civile. L'avion militaire a permis à l'aviation civile de s'épanouir dans l'entre-deux-guerres. Et Pierre-Georges est un des premiers à vouloir construire des lignes. Et en ayant une vision, je dirais, organisée déjà, puisque lorsqu'il rencontre le ministre Jacques Duménil, le ministre de l'Aéronautique, il lui dit tout simplement, moi, j'ai organisé, je veux amener du courrier jusqu'en Amérique du Sud, parce que c'est une terre qui, commercialement, est intéressante pour la France. Il a déjà l'idée de l'Amérique du Sud, et il a déjà l'idée, gérée de l'organisation par étapes de la construction de sa ligne. Qu'on appellera la ligne. Pour lui, il y a trois tronçons. C'est partir de Toulouse, bien évidemment, puisque son entreprise et ses usines sont à Toulouse. Donc partir de Toulouse, descendre jusqu'à Casablanca. Et puis le deuxième tronçon, ce serait Casablanca-Dakar. Ensuite, on a le bond de l'océan, ça j'en reparlerai. Et puis, par la suite, descendre à partir notamment de Natal, au Brésil, descendre vers Buenos Aires, en Argentine. Voilà. Donc déjà, pour lui, dans son esprit, la ligne est construite.
Donc il peut lancer cette formule qui est restée très célèbre. « J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, mon idée est irréalisable. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, la réaliser. »
Oui, alors ça, cette phrase qui est restée, parce qu'elle est un peu rattachée à la TECOER, il l'écrit à un de ses amis proches, Beppo de Massimi, dont on reparlera, mais il l'écrit, on est au mois de mai 1918. Donc déjà, dès mai 1918, il a évidemment des détracteurs qui ne croient pas à son opération et à sa belle idée, mais lui, il y croit. Lui, il y croit et il va tout faire pour la mettre en œuvre et la construire.
Donc la TECOER n'hésitera pas à approcher des hommes politiques très importants, des militaires très importants. Il va notamment rejoindre le Maroc et rencontrer le maréchal Lyautey. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous cet épisode ?
Oui, alors ça, c'est un épisode qui est assez fameux parce que ça montre en même temps l'aspect chez la TECOER patron d'entreprise, capitaine d'industrie et en même temps grand communicant. La première liaison, parce que la TECOER paye de sa personne, la première liaison qui est réalisée, elle est réalisée en fait au mois de décembre 1918, le 25 décembre 1918, où il va rejoindre en avion avec Al Samson, donc un des avions militaires dont on a retiré les mitrailleuses et tous les aspects défensifs et guerriers. Il va rejoindre Barcelone. Ça, c'est vraiment l'ouverture, entre guillemets, officielle de la ligne. Et puis, son idée, donc, c'est de poursuivre jusqu'en Afrique du Nord. Comme je vous l'ai dit, il va aller jusqu'à Casablanca. Et donc, au mois de mars 1919, il se lance dans l'aventure. Il prend l'avion, là aussi, avec un pilote. Il n'est pas pilote du tout, là. Pierre-Georges Latécoère, il n'a jamais piloté un avion, il n'a jamais passé de brevet de pilote. Donc, il part avec un pilote. Et il va rejoindre le Maroc. Au départ, son idée, c'est Casablanca. Et puis, la résidence du gouverneur, qui est Lyautey, se trouve donc à Rabat. Et donc, il va jusqu'à Rabat. Et lorsqu'il arrive à Rabat, on est le 9 mars 1919, il est accueilli évidemment par les autorités locales et par le maréchal et son épouse. Et chose assez amusante, mais calculée de la part de la TECOER probablement, il amène un exemplaire du journal du jour de Toulouse. au maréchal et un bouquet de violettes à Madame la maréchale. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ça montre le communicant, parce que derrière, évidemment, on va en parler, on en parle encore aujourd'hui, cette anecdote. Mais surtout, dans les jours qui vont suivre, il va y avoir de grandes discussions, de grandes négociations avec l'armée française présente au Maroc, et des accords pour utiliser en partie les aéroports. Et puis surtout, il va s'entendre avec l'administration des postes du Maroc, qui est l'administration française, et signer une convention postale qui va lui permettre aussi de gagner de l'argent avec sa fameuse ligne.
Alors pour réaliser ce rêve fou, la TECOR va bien sûr s'entourer d'hommes de confiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart anciens pilotes de guerre. Pouvez-vous nous dresser le portrait de certains d'entre eux? Je pense notamment à Beppo Massimi ou encore à Didier Dora.
Alors oui, ces personnages font aussi partie, comme je le dis dans mon livre, de la garde rapprochée. On avait Marcel Moine en tant qu'ingénieur. On a un grand négociateur, c'est Beppo de Massimi. Beppo de Massimi est un aristocrate, c'est un napolitain, c'est un homme d'ambassade, c'est un homme d'intrigue, de grandes discussions. Et donc, il connaît Pierre-Georges depuis très longtemps. Pierre-Georges l'a croisé alors que la guerre n'était pas commencée. Il le connaît depuis 1907. Et Beppo de Massimi, en même temps, est quelqu'un qui a une forte image de lui-même et qui la cultive puisqu'il s'est engagé dans la Légion étrangère pendant la guerre. Il a été pilote, il a été lieutenant-observateur en 1916 dans l'armée française. Et pour lui, à la sortie de la guerre, c'est naturellement qu'il va suivre dans cette grande aventure Pierre-Georges. C'est un peu son négociateur. Donc c'est le personnage que l'on va retrouver notamment dans les ambassades italiennes, en Espagne, auprès des Allemands, pour négocier des conventions, pour négocier des accords commerciaux. On aura toujours affaire à Beppo de Massimi. La TECOR n'est pas un négociateur, ce n'est pas un politique particulièrement, c'est un industriel et il a Beppo de Massimi qui joue ce rôle. Didier Dora, c'est un organisateur. Didier Dora, c'est son fidèle parmi les fidèles. Didier Dora a fait l'école supérieure des travaux publics et puis il a été engagé dans la guerre, comme beaucoup. Il a été engagé dans un régiment d'infanterie, il a été chasseur, il s'est battu à Verdun, il a été décoré. Il devient pilote en 1916. C'est un homme qui a un passé militaire assez important. Il a la Croix de guerre, il a les citations, et bien évidemment, il a la Légion d'honneur. À l'époque, c'est quelque chose d'important, la Légion d'honneur, et puis c'est donné pour des raisons militaires, 8 citations. Donc, en 1918, c'est un pilote qui n'a plus d'avion, puisque la guerre est terminée, et c'est un pilote qui a envie de continuer et qui va continuer auprès de la TECOR. Et en fait, il va très vite devenir le directeur d'exploitation de la ligne, c'est-à-dire celui qui va organiser les étapes de la ligne, qui va organiser les escales, les aéroplaces, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire donc les différents aéroports où les avions se poseront, et qui va surtout recruter les pilotes. Et donc, quasiment tous les pilotes vont passer devant lui et vont passer devant Dora. À l'époque, c'était quelque chose parce que c'était un homme très dur. Il le dit lui-même dans ses mémoires et puis les pilotes le racontent. Les pilotes considéraient Dora comme quelqu'un de très dur, mais avaient beaucoup de respect pour lui, justement par son passé militaire et par son passé de pilote.
Alors, Didier Dora, un être effectivement inflexible et sévère. Saint-Exupéry s'est d'ailleurs inspiré de lui pour façonner le personnage de Rivière dans Vol de nuit. Dans votre ouvrage, vous citez Didier Dora qui dénonce les frasques et le train de vie frivole de Marcène Rennes et de Georges Pivot, donc d'extraordinaires pilotes. Et il s'adresse au directeur de l'aéroplace de Malaga, il est très mécontent, et il écrit ceci. « Nous apprenons que Rennes et Pivot amusent et étonnent le public casablancais par une vie mouvementée, se poursuivent certains jours, entre guillemets, du coucher du soleil au lever. » Leurs excès nocturnes sont généralement suivis d'excentricités matinales au cours desquelles on peut voir circuler dans les rues de Casablanca 4 pur sang loués à prix d'or, montés par Rennes et Pivot, et 2 Amazones dont nous évitons de vous entretenir. Cette vie d'enfant terrible et prodigue porte le plus grand tort à l'aviation et à notre entreprise, et nous ne saurions le tolérer plus longtemps. Vous avertirez Rennes et Pivot que si cette situation n'est pas immédiatement normalisée, nous les rappellerons à Toulouse, où une décision sera prise à leur égard. Une autre personnalité, Joseph Roy, issue elle aussi de l'armée, va jouer un rôle d'une extrême importance dans l'avancée de la ligne. Pourquoi, Laurent Albaret ?
Joseph Roy, c'est vrai, fait partie de la garde rapprochée de Pierre-Georges Latécoère. C'est un pilote de l'armée française qui a fait toute sa carrière dans l'aviation dès 1914. Il a été chef d'escadrille en 1916, décoré, croix de guerre, officier de la Légion d'honneur, 9 citations. Et à la sortie de la guerre, il va continuer dans l'armée. Il veut y faire sa carrière. Et en fait, en 1921, c'est Lyoté qui est devenu très proche de la TECOR et de l'aventure que la TECOR veut mener avec son aviation commerciale. C'est Lyautey donc qui va confier, qui va détacher Rouargue auprès de la TQR pour deux raisons, parce que déjà c'est un très bon pilote, et deuxièmement, il est nécessaire d'avoir un militaire présent auprès de la TQR lors, je dirais, du défrichement d'une ligne, tout simplement parce que l'Afrique du Nord n'est pas totalement sécurisée, on a des rebelles, on a les tribus morts qui ne sont pas complètement pacifiées, et Rouargue va en fait servir un peu de poisson pilote à Pierre-Georges à travers le désert et surtout dans les relations qu'on a avec les différentes garnisons, qu'elles soient françaises ou portugaises, puisqu'on a des garnisons portugaises l'Afrique du Nord.
Il jouera aussi un rôle très important en Amérique du Sud.
Alors, il jouera aussi un rôle important en Amérique du Sud. Il faut savoir qu'en 1923, il va commencer donc justement à travailler sur le deuxième grand tronçon, c'est-à-dire entre Casablanca et Dakar. Donc, il va, j'ai récupéré un certain nombre de ses correspondances que je n'ai pas toutes publiées, mais il va faire des relevés là où les avions peuvent se poser. Il fait des petits schémas pour montrer où on peut mettre un aéroport ou une aéroplace de secours, où on va pouvoir poser tel appareil, où on pourra ravitailler, ainsi de suite. Donc, en 1923, il développe, je dirais, il déroule même cette ligne entre Casablanca et Dakar. Le premier vol officiel commercial a lieu au mois de juin 1925. Et puis, naturellement, la TQR l'envoie en Amérique du Sud parce qu'il faut là aussi construire le troisième tronçon, le troisième et dernier tronçon entre Natal au Brésil, en passant par Rio, jusqu'à Buenos Aires en Argentine.
Alors, les premiers concurrents de la TQR sont les Allemands, contre lesquels il doit lutter sans cesse en Espagne d'abord, puis en Amérique du Sud. Et on a le sentiment qu'en cette période de paix retrouvée, les avancées de l'aéronautique sont placées bien au-dessus des intérêts personnels et particuliers, et que c'est bien de la grandeur de la France qu'il s'agit. La TQR, dans une lettre de 1923 adressée au député Léon Baretti, une lettre que vous citez dans votre ouvrage, prône ainsi la transformation de l'arme aérienne en un instrument de civilisation.
Oui, alors il faut s'imaginer aussi la période, on est dans l'entre-deux-guerres, l'aviation se développe, elle ne se développe pas uniquement en France, la TQR n'est pas tout seul, mais les compagnies aériennes se créent un peu partout en Europe, notamment au Royaume-Uni, mais surtout en Allemagne. Et il y a une volonté d'expansion au niveau de l'Allemagne, expansion commerciale à cette époque-là, qui fait que l'aviation est encouragée et soutenue par le gouvernement allemand et la TQR regrette très souvent dans ses courriers qu'en France, on ne se rende pas compte que la chose aérienne a son importance, qu'il faut aider les compagnies aériennes, et notamment la sienne, par des subventions, et qu'il faut la soutenir aussi politiquement. Et il s'en plaint à plusieurs reprises auprès de certains députés qui sont de ses amis. J'ai repris là-dessus aussi un certain nombre de correspondances, notamment évidemment des députés de sa région, des Midi-Pyrénées, du Languedoc, où il dit justement qu'il faut le soutenir et qu'il faut aider par des subventions, parce que les Allemands ont envie de conquérir des parts, ont envie de développer une aviation commerciale, notamment sur la Méditerranée, mais aussi sur l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est vraiment une terre vierge au niveau de l'aviation, et il y a une volonté des Allemands, évidemment de la TQR, donc de la France, de se développer. Ce sentiment qu'il a, Pierre-Georges, n'est pas un sentiment, je dirais, uniquement industriel, c'est un sentiment qui est plus un sentiment national. Il a cette volonté, justement, de mener au mieux les intérêts de la France, l'aviation commerciale française, dans des terres vierges, au niveau, je dirais, des liaisons et des liaisons commerciales aériennes.
Et en même temps, on a l'impression, à lire la correspondance que vous avez publiée, qu'il se débat sans cesse avec les problèmes financiers. Il écrit en janvier 1926, il déplore la situation financière de notre mission, il emploie bien le terme mission, est extrêmement grave.
Oui, il se dit pas parce que les revenus des lignes aériennes de la TQR, puisque c'est le nom qu'elle porte dès 1919, avant qu'il la transforme en compagnie générale d'entreprise aéronautique, les lignes aériennes de la TQR ont deux revenus possibles. Le transport du courrier, je l'ai dit, il y a des conventions postales qui sont signées, qui vont être renouvelées régulièrement avec l'administration des postes, et le transport de passagers. Mais il faut savoir que le transport et à la fois du courrier et de passagers ne rapporte pas. Pour vous donner quelques chiffres, l'année 1919, la TQR va transporter entre la France et l'Afrique du Nord 9000 lettres, 9124 lettres très précisément, et il va transporter 41 passagers. Le transport de passagers, à l'époque, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Sur ces 41 passagers, pour la petite histoire, 38 ne payent pas. Et là aussi, on voit le communicant, les 38 qui ne payent pas, ce sont des journalistes. Ce sont des journalistes, ce sont des politiques à qui on va vanter l'intérêt de l'aviation et l'intérêt de l'aviation pour le transport des passagers, qui est beaucoup plus intéressante que la navigation. Donc, il a du mal à se développer. En 1924, on est à 2 millions de correspondances transportées et on est à peu près autour de presque 2000 passagers transportés, dont là une grande majorité payante. Mais ses revenus ne lui suffisent pas. Donc, il se débat constamment pour obtenir des subventions, pour obtenir le soutien à la Chambre des députés, pour obtenir le soutien de certains ministres. Laurent Hénac, qui est ministre de l'aéronautique pendant ces années-là, va le soutenir, mais bien est obligé de soutenir aussi les autres compagnies aériennes françaises. Donc pour lui, c'est en permanence un combat, et c'est vrai que sa correspondance le montre bien, on compte sou par sou toutes les dépenses.
On a le sentiment que tous les acteurs de l'aéropostale, depuis les têtes dirigeantes jusqu'aux pilotes et mécaniciens, sont animés non par la recherche à tout prix de l'exploit individuel, par la recherche de profit, mais plutôt par le goût de la mission accomplie, une mission perçue comme collective et à travers laquelle va primer le transport du courrier, l'exactitude. Alors j'aimerais rappeler la formule que Didier Dora a adressée à ses pilotes au moment du départ. Il aimait à leur dire « Vous allez partir, n'oubliez pas que la fantaisie, l'héroïsme n'ont pas de sens ici, vous êtes un ouvrier ». Pas d'éclat, pas d'exploit possible. Le public doit toujours ignorer votre nom, sinon par une ligne dans le journal, le jour où vous serez assez maladroit pour vous faire tuer. Vous faire tuer, oui, effectivement, parce que le danger demeure pourtant bien réel et le dépassement de soi, même tacite, reste tout de même indispensable à ces aventuriers de la ligne. Alors que va mettre en place la TECOR et...
Alors la TECOR met surtout en place, soutenue par un homme comme Didier Dora, mais par d'autres aussi, hein, Beppo de Massini va y participer, Rouargue va jouer aussi son rôle, il met en place surtout de la rigueur et puis une régularité dans les vols. C'est-à-dire qu'il va se battre pour que ces vols soient réguliers, alors soient réguliers, c'est-à-dire qu'on va tourner à des vols hebdomadaires, mais au niveau des horaires, que ces avions arrivent à l'heure et partent à l'heure. Beppo de Massimi a cette phrase à cette période-là, il le dit très clairement dans un des télégrammes qu'il envoie, je crois que c'est un aéroplace de Malaga, il le dit « partir et arriver à l'heure ». Tout le secret de notre entreprise était contenu dans cette formule. Pourquoi partir et arriver à l'heure ? Parce que tout simplement, on transporte des passagers qui veulent arriver à l'heure et qui veulent partir à l'heure, mais on transporte surtout du courrier. Et le courrier n'attend pas. La devise officieuse de la ligne, c'est que le courrier doit passer à tout prix, mais le courrier non plus n'attend pas. Et lorsque les avions arrivaient d'Afrique du Nord à Toulouse, un train amener le courrier pour Paris. Et ce train-là, c'était le train classique, mais avec des wagons postaux. Donc, si l'avion n'arrivait pas, le train partait sans le courrier. Et le courrier était retardé d'autant. Donc, il y avait cette volonté de régularité dans les vols. Maintenant, la régularité dépendait à la fois des conditions météo, à la fois de l'état des avions, à la fois aussi de la qualité des pilotes.
Et on apprend que tout pilote, même les plus grands, doit faire un stage de mécanique avant de voler. Est-ce que vous pouvez... évoquer pour nous un exemple.
Alors, il y a l'exemple le plus connu, c'est Mermoz qui le raconte dans ses mémoires posthumes. C'est-à-dire que lorsque Mermoz va se présenter pour être pilote, puisqu'il a postulé, il fait partie de tous ces pilotes, tous ces pilotes qui ont vécu la Première Guerre mondiale, mais qui n'ont plus de travail à la sortie de la guerre, parce qu'ils sont pilotes et on n'a pas trop besoin de pilotes civils, parce que les lignes aériennes ne sont pas développées. Et lorsqu'il arrive à Toulouse et qu'il passe... on va dire, son moment de recrutement, son premier vol se passe très mal parce que Dora a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui manque de rigueur en vol. Et donc, il est rejeté, bon, finalement accepté. Et on lui dit, mais vous n'êtes pas pilote tout de suite, vous allez apprendre à monter et démonter les moteurs. Et donc, il y a cette volonté aussi de former les pilotes sur leurs appareils. C'est-à-dire que les pilotes savent piloter, certes, mais on va leur apprendre à être aussi mécaniciens. Et c'est vrai que Mermoz, lorsqu'il aura des soucis, lorsqu'il tombera en panne, ou d'autres, pourront réparer eux-mêmes leurs avions avec l'aide de leur mécanicien. Ils ont un mécanicien avec eux, mais pourront s'en sortir parce qu'ils, justement, ils ont fait, entre guillemets, ce stage de mécanique avant d'intégrer la carrière de pilote au sein des lignes aériennes de la TECOR.
Mermoz sera notamment attaqué par les morts.
Oui, alors le gros problème de l'Afrique du Nord à cette époque-là, ce sont les tribus maures. Certaines ont été soumises, on a signé des accords avec elles, mais il y en a certaines qui considèrent que ces avions violent à la fois leur espace, l'intégrité de leur espace, et puis surtout se disent qu'il y a peut-être des valeurs et puis des armes à l'intérieur des avions. Donc évidemment, on va essayer d'attraper un avion. Alors attraper un avion, c'est très facile à l'époque parce que les avions ont souvent des soucis. Il faut se rappeler qu'on utilise des avions qui sont des avions anciennement militaires. Le Breguet 14 avait un gros défaut, c'est que son moteur prenait très vite le sable. Et le sable dans le désert, il y en a beaucoup. Donc souvent, ces avions se posaient, réparaient, et à ce moment-là, les morts attaquaient les avions.
Et certains pilotes vont même trouver la mort parfois dans d'atroces conditions.
Oui, il y a l'épisode assez connu en 1926 d'Henri Érable, de Léopold Gourpe et puis de leur mécanicien Pintado. Le premier appareil, il faut savoir que les avions volaient par deux à l'époque. Ils étaient toujours doublés par un autre avion pour la simple et bonne raison que lorsqu'un avion tombait en panne, le deuxième avion se posait, prenait le courrier et continuait le vol. Voilà, toujours cette histoire de régularité des vols et de l'arrivée du courrier. Et donc le premier avion, celui d'Henri Érable, a une panne, donc se pose dans le désert. Le deuxième appareil se pose aussi et c'est à ce moment-là que les morts vont attaquer. Érable va être tué, le mécanicien Pintado aussi, et Gourpe va être fait prisonnier, va être conservé vivant, même s'il est grièvement blessé. En fait, pour la petite histoire, il volait aussi avec un interprète, et l'interprète qui accompagnait ses pilotes, Attaf, va plaider la cause auprès des morts. Gourpe va être retenu prisonnier, blessé, et va être échangé contre une rançon. Plusieurs mois après, mais il était grièvement blessé, il mourra une fois libéré malgré les soins qu'on lui a apportés. Ces épisodes arrivent, à, je ne vais pas dire assez souvent, celui-là est assez marquant puisque la TQR va perdre trois pilotes d'un coup et un mécanicien, enfin deux mécaniciens et un pilote. Mais souvent aussi, on avait des accidents d'avion et ça, c'était malheureusement plus fréquent dans les débuts des lignes aériennes. Les avions mal entretenus parfois, mais surtout fragiles, dans des conditions météo des fois difficiles, notamment au niveau des Pyrénées, avaient tendance par moment à avoir des avaries et malheureusement à s'écraser.
À partir de quand vont être généralisées sur ces vols les liaisons radio ?
Les liaisons radio arrivent bien plus tard parce que développer, je dirais, des liaisons radio, il faut avoir des appareils puissants et puis il faut surtout avoir de l'argent. Et la TQR n'a pas trop les moyens pour mettre en place des radios, donc on va voir apparaître les radios sur les appareils, tout comme les vols des nuits, à partir de 1926-28 et ils vont vraiment se développer à partir des années 30.
Donc vous évoquez les vols de nuit et bien sûr je ne résiste pas à l'envie de vous lire un passage de Vol de nuit de Saint-Exupéry, c'est l'ouvrage qu'il a rendu célèbre en 1931. Il évoque le pilote Fabien perdu dans la tempête au-dessus de l'océan alors qu'il n'a bientôt plus d'essence et qu'il comprend qu'il va mourir. Ses nuages au-dessus de lui renvoyaient toute la neige qu'il recevait de la lune, ceux de droite et de gauche aussi, hauts comme les tours. Il circulait un lait de lumière dans lequel baignait l'équipage. Fabien, se retournant, vit que la radio souriait. « Ça va mieux !» criait-il. Mais la voix se perdait dans le bruit du vol. Seuls communiquaient les sourires. « Je suis tout à fait fou !» pensait Fabien de sourire. « Nous sommes perdus !» Pourtant, mille bras obscurs l'avaient lâché. On avait dénoué ses liens comme ceux d'un prisonnier qu'on laisse marcher seul un temps parmi les fleurs. « Trop beau !» pensait Fabien. Il errait parmi les étoiles, accumulées avec la densité d'un trésor, dans un monde où rien d'autre, absolument rien d'autre que lui, Fabien et son camarade, n'étaient vivants. Pareil à ces voleurs des villes fabuleuses murés dans la chambre au trésor dont ils ne sauront plus sortir. Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, mais condamnés. Alors Laurent Albaret, à la lecture de votre livre, on est aussi surpris par ces lignes. En février 1924, soit 6 ans après le début de l'aventure, Didier Dora pousse la sécurité jusqu'à confier aux équipages des pigeons voyageurs qui seront lâchés afin de donner l'alerte en cas d'amérissage forcé. Quel rôle jouaient ces pigeons voyageurs et comment les utilisait-on ?
Alors on les a utilisés surtout en Méditerranée puisque il fallait franchir une partie de la Méditerranée pour rejoindre l'Afrique du Nord. Et c'est vrai qu'il y avait toujours ce risque que l'avion ait une avarie au-dessus des flots. C'était des avions, on n'était pas encore au temps des hydravions. Et donc, on avait ces pigeons qui étaient lâchés. Ils ont servi à quelques reprises, avant que l'avion ne sombre, le pilote a envoyé un pigeon pour qu'on lui envoie du secours. C'est arrivé à quelques reprises. On utilisait les pigeons voyageurs parce qu'on n'avait pas de radio. Là aussi, il faut s'imaginer qu'on utilisait les moyens du bord. C'est vraiment les premiers temps de l'aviation. Il faut s'imaginer plein de choses comme ça, un petit peu burlesques. On a toujours cette histoire sur une des premières liaisons entre Toulouse et Barcelone avec des passagers, et donc avec un passager, puisque le Breguet 14 est un biplace. Le pilote, en arrivant à Barcelone, n'avait plus de passagers parce qu'on n'avait pas de ceinture dans les avions. Et les turbulences au-dessus des Pyrénées font que, lors de ce vol, le pilote avait perdu son passager. C'est arrivé une fois, mais c'est resté marqué dans l'histoire de la compagnie.
Alors à l'époque de l'entre-deux-guerres, s'opposent encore dans la conquête de l'air les partisans des avions, des hydravions, ceux des dirigeables. Quel type d'avion ou d'hydravion la société Latécoère va-t-elle utiliser, notamment en direction de l'Amérique du Sud ?
Alors c'est vrai que pour les premiers temps, Latécoère donc utilise des avions militaires. On en a parlé tout à l'heure, le Samson, le Breaker 14. Très vite, ce sont des avions qui ne sont pas du tout adaptés pour des liaisons qui sont parfois assez longues. Donc, ils sont adaptés pour des étapes assez courtes, pour des escales assez courtes. Et donc, Latécoère, notamment, je dirais, secondé par Marcel Moine, qui a monté vraiment une belle équipe d'ingénieurs et un bureau d'études qui fonctionne dès 1922-1923, va commencer à réfléchir à construire des avions plus solides qui peuvent prendre des passagers, on va appeler ça des berlines. Et puis surtout, ces avions, on va les développer, je dirais, on va les fabriquer soi-même à la maison. Donc on va avoir toute une série d'avions qu'on va appeler évidemment les Latécoères, qui vont très vite s'appeler les Laté. On va avoir les premiers prototypes, notamment le numéro 3, le numéro 5. Et puis très vite, on va avoir des avions qui sont beaucoup plus solides. Et on va arriver au Laté 26, au Laté 28. On en aura toute une série comme ça qui porteront des numéros. L'idée de Latécoère, c'est de développer l'hydravion. Alors pourquoi l'hydravion ? Justement, tout simplement à cause de ces grandes étendues maritimes à survoler. Alors, la Méditerranée, ça pouvait encore aller, mais Latécoère se dit bien qu'un jour ou l'autre, il faudra franchir par la mer et au-dessus de la mer, le fameux océan, pour rejoindre l'Amérique du Sud. Donc, il réfléchit beaucoup à l'hydravion. L'hydravion n'est pas, je dirais, bien vu de la part du gouvernement français, assez dénigré par beaucoup de compagnies aériennes. Donc, il y a eu cette lutte dans l'entre-deux-guerres entre hydravion ou avion. Latécoère a prouvé à plusieurs reprises que l'hydravion avait son intérêt. Mermoz, lors d'une avarie, s'est posé avec son hydravion et a pu être secouru par un navire de l'aéropostale. L'hydravion avait son intérêt par moment, justement pour les traversées. Les dirigeables, on peut juste y faire allusion, évidemment, les dirigeables, on pense tout de suite aux Allemands, à Zeppelin. Zeppelin a vraiment commencé à développer le dirigeable dans les années 1924-1926. Le premier grand vol du dirigeable Led Zeppelin, n'importe quoi.
On reprend à partir de Led Zeppelin. Voilà.
Led Zeppelin, c'est un groupe de rock.
Enfin, des dirigeables, voilà. On reprend à partir des dirigeables. Pas de problème.
Le premier grand vol d'un dirigeable Zeppelin, c'est 1924. Avec le LZ-126. Et donc, il faudra attendre les années 30 vraiment pour avoir des dirigeables qui feront la traversée France-Amérique du Sud, notamment le 127 qui traversera en 1930 l'Amérique du Sud, vers l'Amérique du Sud. Donc, on utilise beaucoup avions et hydravions. Et très vite, on va se tourner, lorsqu'on traverse l'océan Atlantique, vers l'hydravion.
Et on peut peut-être rappeler aussi l'importance des bateaux dans cette logistique.
Oui, alors dans cette logistique, évidemment, au tout début, je vous ai parlé des trois tronçons, mais on oubliait l'océan. Et en fait, là aussi, Latécoère y a réfléchi. Et il va utiliser des navires qu'on appelle des petits navires, ce qu'on appelle des avisos. Et on va voir une série d'avisos de l'aéropostale. Alors, il ne fabrique pas des bateaux. En fait, il va les emprunter dans une convention, un accord avec la Marine nationale qui va lui céder un certain nombre de petits bateaux qui, en fait, vont être positionnés dans l'océan comme des étapes virtuelles. Et lorsqu'un avion survolera, lorsqu'on va réussir à partir des années 30 à survoler l'Atlantique, ces avisos joueront un petit peu le rôle de relais. Lorsqu'on va avoir la radio, ils vont servir de balise. Et puis lorsqu'un avion, évidemment, aura une avarie et sera obligé soit de se poser, soit tombera dans l'océan, ces navires seront des navires de secours.
En 1927, au moment où Pierre-Georges Latécoère réalise enfin son rêve premier, celui de relier l'Amérique du Sud, et parvient à engager un contrat d'exploitation postale avec l'Argentine, l'industriel cède la CGEA à l'homme d'affaires Marcel Bouilloux-Dafont. Quelle raison le pousse ainsi à se mettre en retrait ?
1927 est une année charnière pour Latécoère. Déjà parce que ça fait bientôt 10 ans qu'il a lancé, je dirais, sa compagnie et les lignes aériennes qui ont évolué. Et puis, le 1927, c'est l'année où il commence à signer des contrats avec les États sud-américains pour la création de lignes nationales. Donc on a évidemment la ligne avec l'Argentine, mais on a aussi l'Uruguay, on a aussi le Brésil. Et puis ce sont aussi des lignes qui coûtent. Et comme on l'a évoqué, l'ATECO Air est toujours limite financièrement et a besoin de capitaux pour développer ces lignes et pour surtout les solidifier. Il va faire donc appel à des capitaux qu'il peut trouver, et on va lui présenter Marcel Bouilloux-Lafont, qui est un Français installé au Brésil, qui a développé une grande partie du réseau ferroviaire français au Brésil, qui est un banquier, qui est un financier, et qui lui va donc décider, même si au départ il ne s'intéresse pas du tout à l'aviation, va décider d'investir dans, on va dire, la créature de la ATECO Air. Et cet investissement est assez conséquent, puisque au mois d'avril 1927, l'ATECO Air va lui céder, 93% des parts de sa compagnie et va se mettre en retrait, devenant un administrateur délégué de la compagnie. Il faut savoir aussi qu'en 1927, l'ATECO Air est fatigué aussi de cette construction de lignes. Et l'arrivée de Bouilloux-Lafont, de Marcel Bouilloux-Lafont, pour lui est une respiration, et puis surtout la possibilité de développer et de consolider notamment la partie sud-américaine de la ligne.
Alors finalement, l'ATECO Air va se finir par se retirer totalement. Et vers quel secteur va-t-il se tourner désormais à la fin de sa vie? Pourquoi?
Alors l'ATECO Air se retire en fait en 1928 totalement. C'est là où s'arrête, je dirais, ma correspondance, du moins la correspondance que j'ai publiée, parce que évidemment c'est une étape. Il quitte définitivement en décembre 1928 ce qui va devenir la Compagnie Générale Aéropostale sous Marcel Bouilloux-Lafont, et il va se spécialiser dans la construction d'hydravions. Il a toujours géré cette obsession vers l'hydravion, et donc il va travailler à la fois pour la Compagnie Générale Aéropostale, puisqu'il va produire des hydravions comme le LAT 300 ou le 301, mais il va travailler aussi pour l'armée. L'armée française va lui prendre un appareil qui est assez méconnu, mais qui était très intéressant pour l'aéronaval, qui est un bombardier torpilleur, qui est le LAT 298. Et puis, il va travailler sur des plus gros appareils, ce qu'on appelle les géants des mers, notamment le projet du LAT 631 pour le transport de passagers, et puis le 611, qui est aussi un avion de reconnaissance qui servira pour l'armée française.
Laurent Albaret, les lignes ATECO Air créées en 1918 sont devenues en 1927 l'aéropostale après leur rachat par Marcel Bouilloux-Lafont. Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry vont poursuivre à ses côtés l'aventure initiée 9 ans auparavant par Pierre-Georges ATECO Air. Mais en 1931 advient le dépôt de bilan, puis en 1933 le rachat de la compagnie par la SCELA, la Société Centrale pour l'Exploitation des Lignes Aériennes, qui deviendra bientôt Air France. Donc l'aventure de l'aviation civile et commerciale ne s'arrête pas là, bien entendu. D'une certaine manière, elle ne fait que commencer, mais une première page de son histoire est bel et bien tournée. Celle des pionniers, des défricheurs, de ceux qui ont ouvert la voie avec courage, abnégation, souvent avec du panache. Presque un siècle plus tard, le souvenir de leur épopée éveille encore le goût de l'aventure, du dépassement de soi, de la liberté. Elle fait rêver toutes les générations, et c'est sans doute pour cette raison que la fondation Pierre-Georges ATECO Air, dont vous faites partie, a vu le jour en 2004. Quelle est sa vocation? Comment fait-elle revivre la mémoire des lignes aériennes françaises de l'entre-deux-guerres?
La fondation Pierre-Georges ATECO Air a été créée en effet en 2004 par Marie-Vincent de ATECO Air, qui est la belle-fille de Pierre-Georges ATECO Air. La volonté d'une fondation était orientée vers deux choses. C'est dans un premier temps préserver cet esprit de la ligne, cet esprit, comme vous dites, de défricheur, de découvreur, de pionnier de l'entre-deux-guerres, et en même temps garder le souvenir de Pierre-Georges ATECO Air. L'esprit de la ligne, il a été conservé par la création, depuis maintenant 2 ou 3 ans, du raid de l'ATECO Air. Le raid de l'ATECO Air donc, est une opération assez importante qui se déroule sur 3 continents, Europe, Afrique et Amérique du Sud, où on a en fait une renaissance de la ligne avec des avions évidemment modernes pendant plusieurs semaines. Donc actuellement, d'ailleurs, le raid en Amérique du Sud se poursuit. Donc ça, c'était une volonté, je dirais, pour préserver l'esprit de la ligne. Et puis la mémoire de Pierre Georges, c'était justement de mettre en avant, à travers notamment des expositions ou des publications, le souvenir de Pierre Georges et le travail qui a été fait dans l'entre-deux-guerres. Parce que c'est vrai qu'on a toujours, on ne se rend pas compte aujourd'hui, en 2015, que cet homme, il y a un siècle, s'est donné comme mission de créer quelque chose qui n'existait pas du tout. Ça a été le premier qui a mis en place une aviation civile, ça a été le premier qui a organisé le transport de passagers, ça a été le premier qui a organisé l'aéropostal, le transport de courrier par avion. Et cette chose qui aujourd'hui nous paraît, je dirais, du quotidien, pour lui, à l'époque, était quelque chose qui était exceptionnel, mais qu'il considérait comme réalisable, comme il le disait, comme il l'a dit dans cette fameuse phrase que l'on retrouve à chaque fois lorsqu'on parle de Pierre Georges. Donc, il y a aussi ce souvenir du personnage, ce capitaine d'industrie qui fait partie des rares capitaines d'industrie de l'entre-deux-guerres, à justement avoir construit quelque chose qui aujourd'hui fonctionne, a connu une évolution, vous parlez d'Air France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette référence de Pierre Georges que l'on retient à travers la création de la ligne, mais qu'il faut aussi retenir à travers l'aviation commerciale, que ce soit pour le transport du courrier, du fret en général, ou des passagers.
Laurent Alparès, c'est le mot de la fin. Notre émission s'achève. Je rappelle que vous avez reçu l'année dernière le prix Louis Castex de l'Académie française pour votre édition commentée de la correspondance de Pierre-Georges Latécoère. Merci d'avoir évoqué pour nous aujourd'hui cette grande figure de l'histoire de l'aviation. Merci enfin à tous nos auditeurs pour leur attention fidèle et à très bientôt sur Canal Académie.